VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 19 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Rosine Monezero.
Nous commençons par les titres.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré hier à Abuja le président nigérian Muhammadu Buhari lors de la deuxième étape de sa tournée africaine.
Monsieur Blinken a demandé hier au Soudan d'autoriser les manifestations pacifiques au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre.
Washington a annoncé ce jeudi la levée de 5 sanctions imposées au Burundi en 2015.
En Ouganda, la police dit avoir abattu 5 suspects et arrêté 21 personnes suite au double attentat suicide de Kampala.
Ici aux États-Unis, la justice innocente 2 hommes condamnés pour l'assassinat de Malcolm X, plus d'un demi-siècle après.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est au Nigeria, deuxième étape de sa tournée africaine qui se terminera par le Sénégal. Il a été reçu hier par le président Muhammadu Buhari pour discuter de sujets brûlants comme la question de la sécurité. D'Abuja, notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Le chef de la diplomatie américaine est en tournée dans 3 États africains et il est arrivé jeudi à Abuja après le Kenya. L'épineuse question de l'insécurité et comment les États-Unis peuvent assister le Nigeria ont dominé les entretiens tenus à huis clos à la villa présidentielle d'Abuja. Le rapport de la commission d'enquête de l'État de Lagos sur les incidents au péage de Lekki lors des manifestations des jeunes contre les brutalités policières en octobre 2020 a été évoqué par le secrétaire d'État américain, provoquant la réaction du président nigérian pour la première fois depuis la publication du rapport. Le président Buhari, dans un communiqué de la présidence, affirme qu'il va attendre les conclusions des rapports des commissions mises en place dans les autres États avant de se prononcer sur le sujet qui fait présentement débat au Nigeria. Concernant le retrait du Nigeria de la liste noire des pays violant la liberté religieuse, qui, selon Blinken, était fondée sur des faits, le président Buhari a salué la décision des États-Unis, soulignant que personne n'était victime de discrimination sur la base de sa foi au Nigeria. Le président a également apprécié les États-Unis d'Amérique pour avoir autorisé le Nigeria à se procurer du matériel militaire pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Cela nous aide à stabiliser la situation dans le nord-est et nous avons fait beaucoup de progrès depuis 2015, a précisé le président Buhari. Le secrétaire d'État américain prononcera aujourd'hui un discours à la CEDEAO avant de s'envoler pour Dakar, 3e et dernière étape de son voyage africain. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Ajoutons que le secrétaire d'État Blinken a appelé le Nigeria à jouer un plus grand rôle sur le continent, mais l'a aussi encouragé à plus de transparence dans sa gestion des droits humains, qui a ébranlé depuis 1 an les relations entre Washington et Abuja. S'agissant du Soudan, M. Blinken a condamné hier la répression des manifestants par les militaires soudanais au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre, exhortant l'armée à autoriser les manifestations pacifiques.
Les émissaires de l'Union africaine, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et des États-Unis Jeffrey Feltman étaient de retour hier en Éthiopie dans un nouvel effort pour obtenir un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les rebelles tigréens qui s'affrontent dans le nord du pays.
États-Unis, Afrique toujours, Washington a annoncé hier la levée des sanctions imposées au Burundi en 2015, saluant une embellie depuis l'élection d'Evariste Ndayishimiye à la présidence en mai 2020, Nathalie Barge.
Dans un décret, le président américain Joe Biden affirme que la situation qui avait justifié ces sanctions, notamment les meurtres et violences contre des civils et la répression politique, a été modifiée de manière significative par les événements de l'année écoulée. Il évoque le transfert du pouvoir après les élections de 2020, une réduction significative de la violence et les réformes engagées par le président Évariste Ndayishimiye dans dans de nombreux secteurs. En 2015, la volonté du président Pierre Nkurunziza de se faire élire pour un troisième mandat a déclenché une crise qui a fait 1200 morts et poussé environ 400 000 Burundais à l'exil. Washington avait alors imposé des sanctions ciblées contre 7 hauts responsables du régime et un opposant accusé de soutenir la rébellion armée. Dans un rapport publié en septembre, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi affirme toutefois que malgré certaines améliorations, les partis d'opposition, les journalistes et les ONG font encore face à la répression.
En Ouganda, la police a indiqué hier avoir abattu 5 suspects et arrêté 21 personnes dans le cadre de l'enquête sur un double attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique et qui a fait 4 morts à Kampala, la capitale. Le point avec Nanit Talani.
Au cours d'une fusillade hier dans l'ouest du pays, des agents du contre-terrorisme ont tué 4 suspects en Toroko, selon Fred Enanga, porte-parole de la police ougandaise. Un cinquième homme a été abattu près de la capitale en tentant d'échapper, a-t-il ajouté, l'identifiant comme un chef musulman local responsable du réveil des cellules terroristes à Kampala. La police a en outre arrêté 21 suspects, des agents opérationnels, des coordinateurs et des argentiers, a poursuivi M. Enanga. Perpétré par 3 kamikazes, les 2 attentats mardi matin à Kampala ont eu lieu à 3 minutes d'intervalle. D'abord à un checkpoint près du quartier général de la police, puis à proximité du Parlement qui s'apprêtait à se réunir. La police les a attribués à un groupe local lié aux forces démocratiques alliées, une rébellion musulmane née en Ouganda et très active depuis 25 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces attaques interviennent après un attentat à la bombe contre un restaurant de la capitale le 23 octobre et 2 jours plus tard, un autre attentat suicide dans un bus près de Kampala.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une juge de New York a innocenté hier 2 des 3 hommes condamnés pour l'assassinat en 1965 de Malcolm X, icône de la cause noire. Le point avec Eric Manirakidza.
Des applaudissements ont résonné dans la salle d'audience de la Cour suprême de New York quand la juge Ellen Bibben a qualifié d'échec de la justice la condamnation il y a plus d'un demi-siècle de Mohamed Aziz, alias Norman III X Butler, aujourd'hui 83 ans et présent à la cour, et de Khalil Islam, alias Thomas 15 X Johnson, décédé en 2009. Elle a officiellement disculpé les 2 hommes après le dépôt d'une demande conjointe du procureur de Manhattan, Cyrus Vance, de la Défense et d'une organisation luttant contre les erreurs judiciaires de Innocence Project. Devant la Cour suprême, Cyrus Vance a évoqué de nombreuses pièces que ses prédécesseurs n'avaient pas en 1965, dont des rapports du FBI faisant état de témoins impliquant d'autres suspects. Lors de cette audience historique, exceptionnellement retransmise à la télévision, le procureur new-yorkais a présenté les excuses des autorités judiciaires américaines pour des décennies d'injustice et des violations inacceptables de la loi et de la confiance de l'opinion publique. Le meurtre de Malcolm X avait secoué les États-Unis, symbolisant les tensions politiques et sociales du pays dans les années 1960, marquées aussi par l'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 et d'une figure encore plus marquante de la défense des droits civiques, Martin Luther King, en 1968.
Covid-19, les responsables allemands ont décidé hier d'imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés et ouvert la voie à une obligation vaccinale pour les personnels soignants afin d'endiguer l'emballement de la pandémie dans le pays.
Le gouvernement américain a recommandé au laboratoire Pfizer 10 millions de traitements de sa pilule anti-Covid pour 5,29 milliards de dollars sous réserve du feu vert des autorités sanitaires, le président Joe Biden assurant qu'ils seront distribués gratuitement.
De son côté, le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé des essais cliniques avancés réussis pour un médicament à base d'anticorps contre le Covid-19 chez des patients à haut risque.
La justice américaine a accusé hier Apollo Kiboloy, fondateur de la secte philippine au Royaume de Jésus-Christ, d'avoir fait venir aux États-Unis des filles et des jeunes femmes avant de les forcer à avoir des relations sexuelles avec lui sous peine d'une damnation éternelle. Deux autres hommes ont été également mis en cause. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement congolais a soumis à l'Assemblée nationale son budget 2022 estimé à environ 10 milliards de dollars. Cette loi des finances est axée sur le fonctionnement des institutions, le social de la population, la santé, l'éducation et les investissements dans les infrastructures et l'agriculture. Les autorités de Kinshasa prévoient des mesures fiscales et administratives basées notamment sur les recettes non fiscales, douanières et des impôts, ainsi que le renforcement de la lutte contre la fraude et la corruption. En Algérie, l'Assemblée populaire nationale a adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 qui prévoit des recettes budgétaires de 5 683,22 milliards de dinars. Le budget prévoit des dépenses de fonctionnement de 6 311,53 milliards de dinars. Un chapitre est aussi réservé aux infrastructures socioculturelles, aux services productifs, l'industrie, l'énergie, les mines et les plans communaux de développement. Terminons par le Sénégal, où le prix plancher d'achat de l'arachide pour la campagne agricole 2021-2022 a été reconduit à 250 francs CFA. Il reste donc inchangé par rapport à la dernière saison, a annoncé ce mercredi le chef de l'État, Macky Sall, en Conseil des ministres.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Didier Gomes Darossa est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football de la Mauritanie. Le technicien français de 52 ans a entraîné plusieurs clubs africains depuis le début des années 2010, dont le Coton Sport de Garoua au Cameroun, le Oroya AC en Guinée, Ismaili en Égypte et Almerek au Soudan. Il succède à un autre technicien français, Corentin Martins, remercié en octobre après l'élimination de la Mauritanie en match de qualification au Mondial 2022. L'équipe de Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de Cannes d'affilée qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. Au Cameroun, les Mourabitounes sont dans le groupe F avec la Gambie, la Tunisie et le Mali. En Angleterre, alors qu'il va faire ses débuts sur un banc de Premier League avec Aston Villa contre Brighton, demain samedi, Steven Gerrard a assuré que ce poste n'est pas qu'un marche-pied vers celui d'entraîneur à Liverpool, que beaucoup lui promettent un jour. C'est très injuste de décrire ce poste comme un marche-pied. Vous ne m'entendrez jamais en parler comme ça, a protesté l'ancien milieu et capitaine des Reds. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, Gerrard est souvent vu comme le successeur présomptif de Jurgen Klopp sous contrat jusqu'en 2024, quand il quittera les bords de la Mersey. En attendant le 11 décembre et le déplacement de son équipe à Anfield Road, Gerrard devra essayer rapidement de redresser le club de Birmingham, tombé au 16e rang après 5 défaites consécutives. Athlétisme, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coué, a assuré que le règlement sur les athlètes hyper-androgènes va rester en place au lendemain de la publication par le Comité international olympique d'un cadre sur les sportifs intersexes. Le CIO a renoncé à établir des directives uniformes quant aux critères de participation des sportifs intersexes et transgenres, laissant la main aux fédérations internationales. L'instance a publié mercredi un cadre non contraignant avec 10 principes allant de l'inclusivité à l'absence d'avantages compétitifs injustes et disproportionnés, en passant par la primauté de la santé et le droit à la vie privée. La Fédération internationale d'athlétisme impose depuis avril 2018 aux femmes présentant un excès naturel d'hormones sexuelles mâles de faire baisser leur taux de testostérone par un traitement afin de s'aligner dans certaines épreuves internationales. Un règlement dénoncé notamment par la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya, qui refuse de s'y plier, mais a perdu les recours intentés, notamment devant le tribunal arbitral du sport. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Golden State Warriors et Cleveland, 104 à 89. Philadelphie et Denver, 103 à 89. Miami et Washington, 112 à 97. Memphis et LA Clippers, 120 à 108. Minnesota et San Antonio 115 à 90, Utah et Toronto 119 à 103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La CEDEAO vient de sanctionner 149 dirigeants de la transition. Il s'agit des 121 membres du Conseil national de transition, de 27 ministres en plus du Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Comment les Maliens réagissent-ils à ces sanctions de gel, des avoirs et interdiction de voyager? Reportage de Mohamed Danyoko.
149, c'est le nombre d'autorités de la transition concernées par les sanctions ciblées de la CEDEAO. Il s'agit des 121 membres du Conseil national de transition, de 27 ministres en plus du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Leurs avoirs sont gelés et ils ne pourront plus voyager. Une sanction qui peine à être acceptée par une frange de la population. L'ancien Ibala Keïta, ancien ministre et ancien député.
Que ce soit le Mali ou la Guinée, alors ces réalités-là, la CEDEAO n'a pas tenu compte de cela et ça ne marche pas du tout. Mais ça, c'est des choses que nous, Maliens, nous n'allons pas accepter. Alors moi, mon souhait, c'est de faire disparaître cette CEDEAO et d'amener la CEDEAO et de créer la CEDEAO des peuples.
Au même moment, certains estiment que le Mali, en tant que membre à part entière de la CEDEAO, du moment où il ne se soumet pas au règlement de l'institution, doit accepter ces sanctions. Des sanctions qui ont épargné le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et le ministre des Affaires étrangères.
Le Mali même, c'est au premier plan de la CEDEAO. Donc le Mali, si tu acceptes d'être dans une union et que tu acceptes les tests, moi je crois que les sanctions là, c'est pas au Mali seulement. C'est pas au Mali seulement. Donc moi je crois que les sanctions, contrairement à ce que les gens disent, vraiment c'est pas trop sévère. Je crois que c'est conforme au texte de la CEDEAO.
Lors de sa dernière visite à Moscou, le ministre des Affaires étrangères avait dit qu'un calendrier électoral sera disponible avant la fin de l'année, c'est-à-dire après la tenue des assises nationales de la refondation. Faut croire que la CEDEAO n'a pas la patience d'attendre, une impatience qu'elle partage avec des Maliens. Fousseni Ouattara, journaliste.
La CEDEAO voit que le premier responsable du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, parle, dire que les élections, pour lui, ne sont pas des priorités. Donc c'est ce qui a motivé ces sanctions de la CEDEAO. Donc moi, je pense qu'il faut tirer toutes les leçons et je pense que le gouvernement, dans les jours à venir, vraiment doit poser des actes qui montrent clairement qu'on veut aller vraiment aux élections.
Quand la CEDEAO avait menacé de sanctionner à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, les autorités avaient pris acte et regretté cette décision. Maintenant que la menace est mise à exécution, aucune déclaration n'a encore été faite, même si le CNT s'est réuni à huis clos hier jeudi au Centre international de conférences de Bamako. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, le principal candidat de l'opposition à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz, cristallise depuis plusieurs jours les attentions et les tensions. Après une première et brève arrestation lors d'affrontements avec les forces de l'ordre le jour de son procès en appel, il a été interpellé puis relâché ce mercredi alors qu'il voulait faire des visites au centre-ville de Dakar. Pour certains, le pouvoir veut le liquider politiquement. Pour d'autres, c'est normal que la justice fasse son travail. Analyse de cette affaire avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Barthélémy Diaz est un des favoris pour la mairie de Dakar, mais la justice continue de le poursuivre suite à son implication dans l'affaire dite Ndiago Diouf, du nom de ce jeune homme tué lors de l'attaque contre la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur il y a 10 ans. Pour le juriste Maître Mbaye, il est normal que la justice cherche à vider cette affaire.
Mais évidemment, évidemment que oui, parce que dans cette histoire, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu mort d'homme, que la vie humaine, elle est sacrée. Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Maintenant, il l'a fait, il n'a pas fait, c'est à la justice de trancher. En amont, on sait que le dossier était en instruction et a été instruit par un magistrat, renvoyé devant une chambre correctionnelle. C'est-à-dire que maintenant, les faits ont été correctionnalisés au lieu d'être criminalisés. Ce qu'on peut dire, c'est peut-être parce qu'il y a eu des circonstances atténuante. Peut-être que les faits criminels ont été disqualifiés en faits correctionnels, raison pour laquelle il a eu 2 ans dont 6 mois ferme. Parce qu'aucun crime ne peut être condamné à 2 ans dont 6 mois ferme. Ce n'est pas possible.
Cette peine évoquée par le juriste est l'objet d'un pourvoi en appel, mais depuis plusieurs années, le procès peine à aller au bout. Certains pensent d'ailleurs que le pouvoir veut l'utiliser pour invalider la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar. Pour le juriste Maître Mbaye, il faut éviter de mélanger la marche de la justice à celle de la politique.
Non, moi je dirais pas que c'est une conscience, parce que le dossier a toujours suivi son cours. La chambre où elle est pendante a toujours renvoyé à des dates, et ce sont ces dates-là qui sont coïncidées avec le calendrier électoral. Parce que au mois de juillet, le dossier est passé et le dossier a été renvoyé au mois de novembre. Au mois de juillet, le calendrier électoral n'était pas encore sorti. D'aucuns me diront que peut-être que l'État le savait déjà, mais moi je ne vais pas entrer dans ces détails.
L'opposition, elle, croit fermement que ce procès est la dernière carte du pouvoir contre Barthélémy Diaz et elle compte se battre pour empêcher cela. L'analyste politique Pape Matar Fall estime qu'il est dommage que le Sénégal en soit arrivé à ce niveau.
Bon, je dis que la situation est très grave, mais c'est très dommage vu que le Sénégal arrive à ces retentissements politiques. Mais je pense que pour faire taire la violence ainsi que les autres péripéties entre les acteurs, je pense qu'on devrait se concentrer sur l'essentiel qui est le travail pour développer ce pays. Compte tenu de ces situations, je dirais qu'il y a un recul démocratique sans précédent. Les politiciens d'aujourd'hui ont oublié l'essence de l'éthique, des idéologies et du sens patriotique.
Après avoir annoncé publiquement son intention de ne pas aller répondre à la justice le 1er décembre, Barthélémy Diaz a finalement affirmé qu'il allait assister à son procès en appel au nom de la paix. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, sur 300 000 agents de l'État, moins de 300 ont accepté de se faire vacciner contre le coronavirus en 2 semaines de campagne d'immunisation. Certains fonctionnaires croient à tort que le virus n'est plus une menace. Les autorités sanitaires, préoccupées par une nouvelle vague d'infection, disent que les vaccinations doivent être intensifiées. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, relaté par Nathalie Barge.
Des dizaines de personnes se rendent dans la cour du ministère de la fonction publique où se trouve un nouveau stand pour vacciner gratuitement les fonctionnaires contre la Covid-19. Selon Roland Jalla de l'équipe de vaccination, seuls 11 des 400 employés du ministère se sont portés volontaires au cours des 10 derniers jours.
Les gens ne sont pas bien informés et sensibilisés sur ce que le vaccin apporte comme avantage, comme plus. Ils ont peur, ils ne connaissent pas les effets secondaires du vaccin. Je pense que c'est le principal problème.
Le Cameroun a lancé le 19 novembre une campagne d'un mois pour vacciner au moins la moitié de ses 600 000 fonctionnaires actifs et retraités. Jusqu'ici, à peine 300 ont accepté le vaccin anti-Covid. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lay, supplie les travailleurs de se faire immuniser.
This campaign is intended to ensure that the professional environment is not...
Cette campagne vise à garantir que l'environnement professionnel ne soit pas un lieu de propagation du virus, mais propice au développement pour nous tous. Nous continuerons de souligner que la vaccination est le seul moyen de nous protéger des effets dévastateurs de cette terrible pandémie.
En octobre, le gouvernement a annoncé la présence du variant Delta et l'augmentation du taux d'infection dans le pays. Selon le ministre de la Santé, Manaouda Malaki, les gens hésitent à se faire vacciner en raison des rumeurs et de la désinformation sur les réseaux sociaux.
L'effort du gouvernement vise donc à protéger la santé de sa population et son économie en tant que devoir régalien de l'État.
L'association du barreau du Cameroun a indiqué que certains responsables gouvernementaux empêchent les personnes non vaccinées d'accéder aux fonctions publiques. Evaristus Morfone Kafou, président de l'Assemblée générale du barreau du Cameroun, affirme qu'aucune loi n'oblige les usagers des services publics à fournir des carnets de vaccination.
Certaines autorités ont décidé que ceux qui ne sont pas vaccinés n'entreront pas dans leurs locaux. Cela signifie qu'ils sont discriminatoires envers les Camerounais. Plutôt que de contraindre, je pense que le gouvernement devrait éduquer la population. Il devrait persuader les gens et même donner des incitations.
Selon Maître Ngafou, une campagne spéciale de sensibilisation à la vaccination devrait cibler ceux qui hésitent en fournissant des informations cruciales jusque dans les foyers. Seulement 0,1% des 12 millions de personnes ciblées sont complètement vaccinées au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, une juge de New York a innocenté hier deux des trois hommes condamnés pour l'assassinat en 1965 de Malcolm X, ou Malcolm X comme on dit aux États-Unis, icône de la cause noire après le dépôt d'une demande conjointe du procureur de Manhattan, Cyrus Vance, de la défense et d'une organisation luttant contre les erreurs judiciaires, The Innocence Project. Il s'agit assurément d'un rebondissement judiciaire majeur qui rouvre une cicatrice de l'histoire américaine. Pour en savoir plus sur Malcolm X et l'impact de cette affaire sur la société américaine d'aujourd'hui, Mohamed Humfa a joint le docteur Mohamed Moj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York.
Malcolm X était un petit délinquant qui s'est retrouvé en prison très jeune. Et en prison, il a rencontré le Nation of Islam, donc des adhérents d'une religion révélée dans les années 20-30 autour d'Elijah Muhammad. Et finalement, il s'est converti à cette nouvelle religion. Et lorsqu'il est sorti de prison, il est devenu le porte-parole, il est devenu le mobilisateur des foules, le propagandiste. Et donc, c'est quelqu'un qui avait un charisme extraordinaire. Les gens l'écoutaient quand il parle. Vers la fin de sa vie, il était devenu l'icône de la Nation of Islam et d'une grande partie de la communauté noire d'une manière générale.
Alors, il a été tué en 1965, mais plus de 50 ans plus tard, le procès sur son assassinat n'est pas vidé. Qu'est-ce qui explique la complexité de cette affaire?
La complexité, c'est d'abord qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis. Il avait quitté la Nation of Islam pour devenir un musulman orthodoxe sunni. Il avait même fait le pèlerinage à la Mecque et à l'époque avait même parcouru l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Sénégal. Donc il était quelqu'un qui était devenu Main Street Islam, donc l'islam reconnu et un peu visible maintenant, et non plus la secte des Nation of Islam. Et pour cela, les adhérents de ce groupe le considéraient comme un traître. Et en particulier, il avait commencé aussi à sortir les secrets financiers, des perpétuités financières et sexuelles des leaders des Nations de l'Islam et en particulier de son leader principal, Elijah Muhammad. Donc, il avait des ennemis solides de ce côté-là par des gens qui le considéraient comme un traître. Et de l'autre côté, il y avait le FBI et la police américaine d'une manière générale qui le soupçonnaient d'être une sorte de cheval de Troie du communisme, qui le soupçonnaient d'être un radical qui allait enflammer en particulier les ghettos parce qu'il s'était établi à Harlem et était devenu certainement le personnage le plus important d'Harlem, qui en même temps était aussi la communauté noire la plus influente aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, beaucoup de gens pensaient que la police américaine, plus ou moins, avait intérêt à le faire disparaître.
Quel est l'écho et quel impact cette affaire peut avoir dans la société américaine d'aujourd'hui?
C'est la police qui va sortir très, très ternie de cette affaire. Il y a d'abord ce débat sur la violence ouverte ou cachée, sournoise, organisée par les autorités, en particulier ici la police, le FBI, etc. Et d'autre part, le débat pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un complot à des échelons très élevés dans ce pays pour faire en sorte que l'islam soit mal représenté, soit vilipendié, qu'il y ait des efforts pour faire en sorte que cet islam fasse des progrès dans ce pays et n'apparaisse pas comme étant crédible et comme offrant une alternative au discours des dirigeants de l'administration Kennedy Johnson de l'époque.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia et Rosine Munezero, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gahima et à la console, Tony Pollack. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.